après, mieux on peut se rendre compte.
Par exemple, au cours de la session dernière, donc chaque session, il y a deux sessions par an, et les projets sont sanctionnés par l'Assemblée générale deux fois par an. La session de janvier, qui s'est terminée fin janvier, on a distribué 133 550 francs. Qui ont été distribués dans les catégories suivantes, l'éducation et la formation, la santé, l'agriculture et l'élevage, les adductions d'eau, l'artisanat et les petites entreprises et divers projets qui ne sont pas recoupés dans ces différentes catégories. On essaye d'avoir une répartition géographique sur les trois continents. Pendant quelques années, l'Asie a été extrêmement aidée, non seulement par nous, mais par certaines organisations. Ce qui fait que depuis un an, on essaye d'un peu plus focaliser l'aide en Afrique, parce qu'il nous semble qu'elle est actuellement un peu la parente pauvre de l'aide au développement. Et par exemple, à la session dernière, nous avons en Afrique financé 6 projets. Pour vous donner une idée, on a financé un projet, une construction d'une infirmerie pour enfants handicapés au Burundi. À Madagascar, un projet de réinsertion de sans-abri en milieu rural. Au Mali, le forage d'un puits communautaire. Au Zaïre, une alimentation en eau potable. Au Tchad, la construction d'une bibliothèque. En Amérique latine également, et ça se regroupe, c'est-à-dire en Haïti, on a eu construction d'un local scolaire, au Chili, local de formation pour enfants marginalisés. Je tiens juste à préciser que depuis, je dirais, un an et demi, on reçoit de plus en plus de sollicitations financières pour des enfants de la rue.
Si je me penche sur mon papier, je vois qu'il y a certains projets qui, en guillemets, coûtent très peu cher.
Très peu cher.
Hein, je vois 2000 francs, 8000 francs. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment des projets qui sont effectivement à la portée de nos porte-monnaies.
Exactement.
En tant qu'individu.
Exactement. Et ce qu'on tient justement à faire, c'est à obtenir l'effet boule de neige. Dans nos projets, comme disait justement Regina, on ne finance pas de projets où on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'aide, de participation locale. Parce qu'on refuse d'en faire des assistés. Il y a forcément une main-d'œuvre qui doit être donnée, ou par exemple l'achat d'un terrain, ou la construction d'une école, ou le forage d'un puits doit être fait par les gens du coin, etc.
Si.
Juste préciser, la moyenne de nos projets. Je crois, par exemple, pour cette session, est environ 10 000 francs. Pour nous, effectivement, c'est rien du tout, mais là-bas, c'est énormément.
Justement, c'est ça que j'avais envie qu'on évalue, c'est le poids de votre aide dans un projet. Ça veut dire quoi ? C'est une part importante, finalement, de moyens, parce qu'eux, ils ont certainement les forces en nature, ils ont les personnes, ils ont éventuellement la matière première, mais est-ce que c'est souvent les mêmes choses que vous financez ? Par exemple, c'est la technologie ou c'est tout simplement les moyens d'acheter les briques, etc. Enfin, vous parliez de beaucoup de construction dans ce que vous avez vu.
Oui, effectivement, c'est surtout les moyens d'acquisition dont ils ont besoin. La technologie, pour le moment, on peut pas faire de transfert de technologie, ça nous paraît impensable pour le moment. Par exemple, on a des critères très précis d'acceptation de projet, donc pas supérieur à 20 000 francs, pas d'achat de véhicule à moteur, parce qu'on estime que si on achète actuellement un véhicule à moteur, qui prendra en charge les frais de fonctionnement de la voiture, l'essence, etc., qui dans ces pays-là est souvent très très cher, et pas trop de salaires. C'est-à-dire qu'on accepte les salaires à concurrence de 25% de la somme totale du budget, pour justement inciter les gens à se prendre en main, à se sentir plus responsables de leurs propositions. En général, les projets qui nous sont proposés sont des projets ponctuels, c'est-à-dire que on n'aime pas trop les projets où on nous demande une part d'un immense projet, mettons de 100 000 francs. Et ce qu'on demande aussi, ce sont les sollicitations des communautés de base. Soit les gens nous connaissent parce qu'on fait partie de diverses publications qui sont éditées dans le monde, soit le bouche à oreille marche énormément, soit nos membres, qui sont souvent des gens qui vont en mission dans le tiers-monde, en parlent autour d'eux. Et c'est par ce biais-là qu'on reçoit nos propositions. Pour vous donner une idée, en 6 mois, nous avons reçu 111 projets. 75% ont été rejetés immédiatement parce qu'ils ne correspondaient pas à nos critères essentiels et on n'a pu en financer que 12, ce qui est dérisoire.
Mais c'est un engagement déjà.
Mais
des personnes. Alors, bon, malgré tout, quand je vois tout ce que vous nous avez dit, ça me semble hyper concret. Vous avez des critères très précis d'attribution, donc vous avez défini une ligne dans vos têtes d'action, et je crois que, ça, ma foi, c'est un choix que vous avez fait, c'est intéressant. Alors, tout à coup, vous décidez de remettre en cause tout ça, et vous ouvrez effectivement à beaucoup de choses. Si je regarde quelques exemples, vous invitez lors de cette soirée du 26 mai prochain, Didier Deria, qui est responsable du café Max Lavelard pour la Suisse romande, donc on sait bien Max Lavelard qui cherche à faire payer le prix plus juste, en l'occurrence du café, mais étendre le problème de prix plus juste des matières premières. Je vois que vous, si je prends juste ceux qu'on connaît vraiment très franchement, Sophie de Riva, qui est chargée de la promotion de la banque alternative en Suisse romande, donc qui a tendance à prêter de l'argent pour participer à une certaine économie dite alternative, mais chez nous, pas dans le tiers monde. Vous parliez de Noël Constance et Louis tout à l'heure, donc qui lui s'occupe des exclus, des chômeurs, des rejetés chez nous. Et puis Erika de Berpoli, députée au Grand Conseil, qui est directrice de la division culture à Genève, donc qui s'occupe de faire des projets culturels. Je vois vous marquer défendre l'expression des cultures dans leur diversité. Est-ce qu'elle parle du tiers monde d'ici? Qu'est-ce qu'elle va défendre, Erika?
Nous espérons surtout dans le cadre de la campagne actuelle de la défense de la votation du 12 juin. Et je pense que Erika de Berpoli est une personne qui a eu auparavant énormément de poids dans son action politique tiers-mondiste, et j'ai pensé qu'elle s'intégrait assez bien justement dans ce débat.
Alors, vous espérez que ces gens vont vous amener quoi? Vous avez une grande attente de leur part, ou comment, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée?
Bien, on a une attente bien sûr vis-à-vis de ces personnes, mais bien sûr pas seulement. Nous avons organisé cette manifestation pour interpeller d'abord nos membres, les 300, et en nous aidant de l'ensemble de ces personnalités, d'en interpeller d'autres, parce que notre objectif, bien évidemment, et on ne va pas le cacher, c'est que ces 300 deviennent 600 demain, et voire plus. Après tout, sur 6 000 fonctionnaires internationaux, il y a encore beaucoup de marge. Mais surtout, ce que nous avons essayé de faire, c'est que précisément, ce sont des gens qui sont d'ici. Et nous sommes d'ici aussi. Donc, nous avons un langage, on peut se comprendre. Et que leurs expériences, à partir de la Suisse, peuvent éventuellement, avec notre expérience jumelée sur le tiers-monde, parvenir à étendre notre réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec 1% de son salaire aujourd'hui. Bien sûr, les problèmes de la Suisse ne sont pas les mêmes, mais je pense aussi que les personnalités suisses qui essaient de faire payer le prix le plus juste, qui s'occupent des exclus, etc., ce sont des problèmes que l'on retrouve dans le tiers-monde. Pas de la même manière, encore une fois, mais la base est là, et je crois que c'est un peu cette interaction qui va nous permettre peut-être d'élargir notre débat, nos membres, et puis de savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec 1% de son salaire. J'aime bien cette formule parce qu'effectivement, moi-même, je m'interroge, bien que je fasse partie du fonds 1% pour le développement, mais comme je fais ça par virement, à la limite c'est indolore, eh bien je suis amenée à me poser cette question et je me dis, mince, qu'est-ce que je ferai avec 1% de mon salaire? Eh bien, je serais contente d'en débattre avec ces personnes.
Très concrètement, Sylvie et Regina, vont écouter vos propos d'autres gens que simplement les 6 000 membres des organisations internationales de Genève, puisque Onde Femmes, nous l'espérons, est écoutée par beaucoup de gens, beaucoup de femmes en tout cas. Si jamais il se trouve des gens qui sont intéressés par votre réflexion et par le fait de verser 1% de son salaire, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils rejoignent votre association, bien que n'étant pas membre d'une organisation internationale, et par exemple se présentent à votre soirée de jeudi soir?
Question très intéressante, parce que nous sommes en train d'en débattre, justement. Certains membres du comité de gestion pensent que oui, certains autres ne sont pas tout à fait pour. Parce qu'effectivement, c'est un peu une symbolique que l'on tient à respecter. À savoir que cet objectif qui a été prôné par l'ONU du transfert de 1% du PNB envers les pays en développement nous est très cher. Mais bon, pourquoi pas? La petite chose aussi auquel il faut faire attention, c'est que nous sommes des bénévoles. Donc nous sommes déjà assez surchargés de travail, il faut bien le dire. Donc plus nous aurons de membres, ce que nous cherchons vraiment, mais plus cela nous procurera du travail supplémentaire. Et c'est l'éternel problème du bénévolat.
Il faut aussi se rendre compte que plus on aura des gens et plus ce sera lourd à gérer, et que nous ne sommes pas une banque, nous n'avons pas du tout les capacités d'être une banque, et nous n'avons pas non plus le désir d'être une banque. Donc il faut que ça reste dans des limites raisonnables. Mais il existe d'autres moyens peut-être de nous aider, justement pour des gens comme ces personnes. Et ce serait peut-être de financer ensemble un projet de développement pour lequel un financement se pose, ou qui soit un petit peu supérieur à ce que l'on donne. Et je crois que, Sylvie, si tu peux en parler... La commune de Bellevue nous a aidés récemment. Et peut-être est-ce que Sylvie pourrait dire comment est-ce que... Donc, une commune, c'est vraiment tout ce qu'il y a de... Ça n'a rien à voir avec la fonction internationale. Et pourtant, ils ont pu financer un de nos projets.
Il y a 2 ans, la commune de Bellevue nous a contactés afin de financer 1 à 2 petits projets. Nous avons financé, si je me rappelle bien, une école aux îles Salomon, ainsi qu'une école de jardin d'enfants au Ghana.
Alors voilà, merci à nos amis des informels de Radio Pleine Lune de nous avoir donné un temps plus long pour empiéter sur leurs nouvelles. Mais elles arrivent, la lune monte dans vos oreilles. Vous allez entendre tout de suite leur indicatif. C'était Regina Boucaud et Sylvie Pichelin du Fonds 1% pour le développement. Ces deux femmes consacrent, vous vous en serez douté, beaucoup de leur temps personnel comme bénévoles dans cette association. Et elles nous faisaient remarquer d'ailleurs, après notre entretien, qu'elles avaient aussi constaté que les femmes qui, dans les projets financés par le fonds, les projets qui étaient gérés par des femmes étaient souvent les plus accomplis, et en particulier en Afrique et dans les coopératives agricoles qu'elles avaient soutenues par l'argent du Fonds 1% pour le développement. Alors si vous voulez rejoindre leur soirée, c'est donc jeudi 26 mai, 20h30, Institut universitaire pour le développement, IUED, 24 rue Rothschild, à Genève, dans le quartier des Paquis. Et on se quitte rapidement et on se retrouve la semaine prochaine dans Rome Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8.
Bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, grand soleil dehors, met la lune dans vos oreilles sur 93.8 MHz, Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023. Depuis Genève, 033, depuis le reste de la Suisse. Je vous rappelle également notre adresse, Onde Femme sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, suivies du Memento et des coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite pour les nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femme Radio Zone, les nouvelles. En 1995, la Chine accueillera la 3e conférence mondiale des femmes de l'ONU, organisée par les Nations Unies, conférence qui doit clore la 2e décennie des femmes après Nairobi, Pékin, et la Chine se prépare. Ainsi, la zone économique spéciale de Zhuhai, dans le sud de la Chine, met sur pied actuellement une île touristique des femmes, afin d'attirer des touristes féminins. Et l'île, située juste au large de Zhuhai, près de l'enclave portugaise de Macao, serait, je cite, « un paradis spécialement conçu pour les femmes ». L'île touristique des femmes reflétera tous les aspects caractéristiques des femmes. On y verra représenter les caractéristiques des femmes, les loisirs féminins, les mystères féminins, la féerie descendra sur terre. Ils ont vraiment tout compris du féminisme. Au Japon, des bandes de jeunes font régner la terreur et de plus en plus nombreux, des bandes de jeunes filles. Visage enfantin, uniforme strict, telle est l'image d'Épinal de la collégienne japonaise. Pourtant, il existe dans chaque établissement scolaire des bandes qui font régner la terreur. Comme ce fut le cas, par exemple, pour Yumi, 18 ans, ancienne chef de bande, violence, drogue, l'univers des adolescents un peu déboussolés au Japon. On peut voir ainsi des bandes de filles en uniforme noir, les cheveux décolorés, le regard sombre, un sabre de bois employé dans le combat de kendo à la main. L'image a de quoi impressionner. Yumi était par exemple chef de bande, une bande qui avait établi son territoire au bord d'une route nationale. Au cours de l'été 1992, à la suite d'une bagarre avec les membres d'un autre groupe féminin, elle a été envoyée en maison de redressement pour coups et blessures, d'où elle est ressortie après une année d'incarcération. Autrefois, on appelait les filles qui étaient dans les bandes un peu mal vues les ladies, des filles qui faisaient partie des bandes de motards et qui n'étaient là que pour la décoration jusqu'au jour où elles en ont eu assez d'être assises à l'arrière des motos et ont commencé à prendre leur indépendance et à s'organiser. Et cette organisation arrive dans des guerres de gangs où on se bat en général à main nue, mais on utilise parfois des armes, la plus courue étant le botuko, le sabre du kendo. Sida, désinformation à l'égyptienne. En Égypte, les pouvoirs publics minimisent à l'extrême la présence du sida. Plus, il nie la réalité de l'homosexualité ou de la consommation des drogues. Il est très décevant de constater que l'Égypte, qui par de son histoire est l'un des pays les plus raffinés, les plus cosmopolites de la région, adopte une approche si timide dans son programme d'information sur le sida. On pourrait presque parler de désinformation. Dans un discours prononcé récemment au Caire, Sfacen Al-Sheikh, le porte-parole de l'association égyptienne de lutte contre le sida, a déclaré que l'homosexualité n'est absolument pas pratiquée en Égypte et que les relations sexuelles illégales, c'est-à-dire hors mariage, sont très très limitées. De son point de vue, puisque les relations de ce type contredisent les enseignements de l'islam, eh bien sûr, elles n'existent pas. Il est généralement admis que, bien sûr, le préservatif offre la meilleure protection contre le sida. Pourtant, selon le directeur du département des maladies transmissibles au ministère de la Santé, il est totalement impensable d'en faire une campagne, d'en promouvoir l'utilisation. Une telle mesure offenserait trop de gens. Des experts de l'Organisation mondiale de la Santé estiment qu'au Proche-Orient, sur environ 400 millions de personnes, environ 100 000 sont séropositives. Il est inquiétant que cette politique de l'autruche ne puisse faire que propager la maladie. En Afrique noire, on a mis sur le marché un médicament pour faire grossir les fesses. En effet, en Afrique, les hommes ont un penchant très poussé pour les femmes aux fesses développées. Les grosses femmes sont les belles femmes. Toutes les femmes du continent n'ont pas la chance pourtant de voir des grosses fesses. Et certaines sont trop minces, ont la cuisse trop fine ou la fesse trop frêle. Et bien sûr, elles ne plaisent pas. Seul recours, grossir artificiellement en se gavant de médicaments à base de corticoïdes. L'un de ces médicaments, le Falbiton, fait actuellement florès dans les rues de Bamako. Particularité, il ne fait grossir que les fesses, aspect de la femme très pris en compte par les hommes. Surnommé Bobarabanine, littéralement grosse fesse en Bambara, son efficacité ne semble plus prouvée. Pour en avoir consommé, dit une femme, je sais que l'effet est réel, mais assez lent. Ce n'est qu'après avoir épuisé 3 plaquettes, soit 30 comprimés au total, que j'ai obtenu ce que je voulais. Et puis, dès que j'arrête, mes fesses disparaissent. Le gonfleur de derrière n'est pas sans effet secondaire. Mon organisme le supportait mal, dit une autre femme. Chaque fois que je l'avale, je sens des nausées, des vertiges et même des douleurs dans les pieds. Certaines femmes ont quant à elles refusé de devenir des victimes de la mode. J'ai peur de me retrouver avec une fesse plus grosse que l'autre, dit une. Je serai déformée, je préfère m'abstenir. « En Italie, l'arrivée de Berlusconi et des fascistes au pouvoir met les féministes parlementaires en crise. Ainsi, Livia Turco, responsable historique des femmes dans l'ex-parti communiste, s'en va. Les commissions féminines disparaissent. Le monde du féminisme est en émoi. C'est le constat qu'on peut faire actuellement en Italie. À l'origine de cette situation, l'accession à la présidence de la Chambre des députés d'une femme, la jeune dirigeante de la Ligue du Nord, Irene Pivetti. Le féminisme italien a toujours gravité dans l'ère de la gauche, dit une des parlementaires de gauche. Voir s'installer à la troisième fonction de l'État une jeune femme issue de l'univers inexploré de la Ligue, qui parle d'elle-même au masculin, affirme qu'elle fait de la politique comme un homme, c'est choquant. Fin de citation. Certaines féministes voient dans l'élection de cette femme, la Pivetti, le résultat de 20 ans de combat du mouvement des femmes. Les autres y lisent, et plus encore chez Alessandra Mussolini, la petite fille du Duce et parlementaire dans l'Alliance nationale, une véritable menace pour les actions féministes. Ces dames, disent-elles, exhibent leur corps de manière féminine et en même temps parlent comme les dirigeants de la Fiat. En somme, elles sont l'incarnation même du rêve masculin. À terme, les adversaires de Berlusconi et d'Irene Pivetti redoutent que face à l'avancée d'une droite qui souhaite la réouverture des maisons closes, qui remet en cause la loi sur l'avortement et se prépare à relancer le ministère de la famille, les femmes issues des classes les plus défavorisées soient les premières touchées. Les féministes désabusées règlent aussi leur compte avec la gauche. Les seules à ne pas accepter dans la réalité le rôle des femmes, ce sont justement, disent-elles, les partis de gauche qui ont toujours évité la question des femmes en leur accordant au maximum des quotas, ce qui revient, disent-elles, à les rejeter de fait dans une sorte de ghetto, une catégorie séparée. Les Japonais mal informés sur le harcèlement sexuel. Les hommes japonais n'ont pas d'idée très précise de ce que signifie le harcèlement sexuel dont peuvent être victimes les femmes sur le lieu de travail. C'est ce que souligne une enquête de la municipalité de Tokyo. La majorité des hommes interrogés estiment qu'organiser, par exemple, un concours de beauté sur le lieu de travail, ce n'est pas un cas de harcèlement sexuel. Excusez-moi. Selon cette enquête, près de 30% des Japonais sont d'avis que de montrer les photos de nus à des collègues femmes n'est pas non plus du harcèlement sexuel. Et la majorité des hommes interrogés estiment que discuter des caractéristiques physiques et de l'apparence des employés ne représente pas non plus un cas de harcèlement. En France, à Paris, les mal logés se servent à la Banque de France. Une quarantaine de personnes, dont une majorité de femmes avec enfants, se sont installées dans un immeuble de la Banque de France, situé dans le 3e arrondissement de Paris. 4 étages, inoccupés depuis 5 ans, expliquent les squatters. Comme l'an passé, ils sont soutenus entre autres par l'abbé Pierre, qui les accompagne et qui a prévenu « il faudra m'expulser avec eux ». Il y a également d'autres personnalités, comme Léon Schwarzenberg, Monseigneur Gaillot, Alain Krivine, le professeur Jacquard, Harlem Désir et la femme qui dirige la liste des Verts aux Européens. Un immeuble vide appartenant à la Banque de France, inoccupé depuis 5 ans. Il fait 400 mètres carrés, 37 personnes dont 18 enfants vont y emménager. Ils sont sans logis, très mal logés, la majorité sont au chômage, soit des RMistes ou en situation d'exclusion totale. Sur la façade se déploient des banderoles, maison de la solidarité, application de la loi de la réquisition. En Suisse, la Commission des États maintient pour les femmes la retraite à 64 ans. La Commission du Conseil des États, qui examine la 10e révision de l'AVS, a décidé d'inviter le Conseil fédéral à entamer sans retard les travaux de la 11e révision de l'AVS et de prévoir un âge de retraite égal pour les hommes et les femmes. La question de relever l'âge de la retraite des femmes secoue d'ailleurs toujours le monde syndical et féministe. Car la statistique le montre clairement, les femmes sont proportionnellement plus touchées par le chômage que les hommes. Une chômeuse et un chômeur. Et de plus, les chômeurs et les chômeuses sur 5 sont jeunes, ils n'ont pas encore 30 ans. Si l'on prolonge de 2 années la période de vie active des femmes, il faudrait disposer d'environ 32 000 places de travail supplémentaires pour répondre aux besoins ainsi créés. Ce chiffre est aussi celui du nombre des moins de 24 ans qui se trouvent au chômage en 1994. Est-il bien logique et juste de forcer des dizaines et des milliers de femmes à prolonger de 2 ans leur travail quand simultanément des dizaines et des milliers de jeunes sont au chômage? D'autre part, on imagine faire quelques économies, mais c'est sans compter les coûts supplémentaires qui résulteront de cette mesure. Ces coûts concernent l'assurance chômage, l'assurance maladie et l'assurance invalidité, sans oublier l'assistance sociale, une fois que les personnes touchées seront au bout du rouleau. Certains politiciens veulent faire passer les femmes à la caisse pour les améliorations décidées dans le cadre de la 10e révision de l'ABS, à savoir le splitting, le bonus éducatif, la rente de veuf, l'amélioration des prestations pour les hommes et les femmes. Finalement, on veut demander aux femmes de fournir une contre-prestation à égalité de traitement dans l'AVS. Ce serait grossièrement oublier que les femmes fournissent un travail familial que l'on estime à 104 milliards de francs en Suisse par an et qui n'est toujours pas reconnu. Il faut aussi considérer que les femmes permettent à la communauté d'économiser d'énormes sommes en matière de soins. Malgré cela, on continue à leur verser en principe des salaires plus bas qu'aux hommes et des rentes moins élevées. C'est pour cela que donc est prévu le mercredi 1er juin une immense manifestation. Excusez-moi encore, j'ai la bronchite. Une immense manifestation qui aura lieu sur la place fédérale à Berne. Manifestation appelée par les syndicats qui se déroulera pendant la session du Conseil des États qui servira de protestation contre cette intention d'élever l'âge de la retraite des femmes à 64 ans. Il s'agira de bien faire comprendre à la Chambre des cantons que la majorité de la population ne veut pas de ce relèvement, présence donc requise. D'ailleurs, on en reparlera, des trains spéciaux seront en marche pour Berne.
Des statistiques qui nous viennent de l'OMS, selon elles, les Japonaises ont l'espérance de vie la plus longue. C'est au Japon que l'espérance de vie est la plus élevée. Les Japonaises atteignent en moyenne l'âge respectable de 83 ans. Elles sont suivies par les Françaises. L'annuaire de statistiques sanitaires mondiales publié par l'OMS donne d'autres informations intéressantes. Selon donc cet annuaire, le taux les plus bas de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes sont détenus par le Japon, suivi par la Finlande, Singapour, la Suède. Les taux les plus élevés ont été enregistrés au Brésil, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, en Argentine. Les taux de fécondité globale les plus bas se rencontrent en Italie, en Espagne et en Grèce. Et le taux de fécondité les plus élevés ont été déclarés au Rwanda.
En Suisse, le travail à temps partiel s'est fortement accru. La progression observée provient avant tout, bien sûr, de l'intérêt accru des femmes pour le monde professionnel. Les femmes restent le plus concernées par le travail à temps partiel, puisqu'une Suisse active sur deux bénéficie d'un horaire réduit, alors que en 86, il n'y en avait qu'un tiers. Chez les hommes, la proportion est plus modeste. L'an dernier, 25 000 emplois à temps complet ont été perdus dans le tertiaire, alors que 10 000 emplois à temps partiel ont été créés.
À Lausanne, radio des nouvelles sur Radio Acidule, Christiane Jacquet claque la porte de cette radio. La directrice d'Acidule a annoncé qu'elle quittait le navire. Elle en suivra désormais l'évolution avec sympathie, mais de très loin. Comme nous n'avons pas assez d'informations claires pour savoir quelles sont les réelles raisons de cette démission, nous allons essayer de glaner des informations et vous en donner plus de détails la prochaine fois.